Eh bien, sociologue de formation, Lynn Chamberlain est professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle est la fondatrice de la chaire de recherche sur l'homophobie et elle vient de recevoir l'Ordre du Canada. J'imagine que le « en bref » qu'on vient d'entendre, Lynn, ça t'a fait un petit peu dresser les cheveux, là, avec ce qui se passe au Qatar sur les personnes qui vont sur Grindr.
Ah oui, c'est épouvantable. Ce sont des risques énorme. Il y a une répression, il y a des reculs actuellement en Afrique, il y a eu des reculs dans plusieurs pays. Donc, et les gens qui se battent là-bas font preuve d'un courage énorme.
Alors, Lynn Chamberlain, je t'ai fait parler avant de te demander, puisque c'est la première fois qu'on te reçoit cette émission, je demande toujours aux gens quels pronoms et quels accords tu utilises.
Alors, elle, et puis je suis retraitée maintenant.
Ah, t'es retraitée, c'est vrai.
Oui,
c'est vrai.
Je suis retraitée et par contre, je maintiens encore quelques activités scientifiques, surtout pour la supervision des étudiants ou collaborer à quelques articles.
Je vais commencer par les félicitations parce que c'est de mise. Recevoir l'Ordre de Montréal, ça représente quoi pour toi?
Bien, d'abord, c'était une surprise parce que je n'avais pas été informée que ma candidature avait été soumise. Alors, parfois, les prix, on s'y attend. Pour une raison ou pour une autre, on a contribué à la présentation du dossier. Alors là, je n'avais pas eu d'écho, donc c'était vraiment une surprise totale. Pour moi, c'est comme une récompense générale de ce que j'ai fait dans ma carrière et de un peu de l'audace que j'ai eue de travailler à la création de cette chaire. Qui s'appelle maintenant la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, et qui est bien installée, qui est reconnue. Donc, je pense que c'est un prix pour ça. Puis, bon, que ça vienne de Montréal. Montréal, c'est ma ville d'adoption. Quand j'avais 23 ans, je suis déménagée de Québec à Montréal. Et je n'ai jamais regretté ce choix. Et j'aime encore Montréal. Je trouve que c'est une ville qui a malheureusement été mal aimée par certaines administrations municipales précédentes, mais qui est quand même une ville où il fait bien bon vivre.
Bien, justement, quand j'ai annoncé que tu serais à l'émission sur les réseaux sociaux, j'ai eu quelques messages et les gens disent « Ah, c'est le fun, on est content ». Beaucoup de personnes m'ont parlé de toi, de ton travail de recherche. On te considère comme une sommité dans la recherche sur les personnes queer. C'est quoi l'étincelle qui t'a poussé au départ à aller de l'avant et à créer cette fameuse chaire?
En fait, c'était au moment où le gouvernement, j'étais pas toute seule là-dedans, c'était plusieurs groupes communautaires, des représentants des syndicats, la Fondation Émergence aussi, et tous ces groupes-là étaient réunis avec le gouvernement pour dire, bon, mais maintenant, l'égalité juridique est pratiquement atteinte. On était en début des années 2000, donc après l'adoption de l'Union civile, donc les couples étaient reconnus, les parents de même sexe était reconnu, mais on se rendait compte par l'observation qu'il y avait encore beaucoup d'homophobie, beaucoup d'hostilité, beaucoup de stigmatisation, que parfois ça prenait des formes indirectes, c'est-à-dire que c'était pas toujours le coup de poing sur la gueule ou l'arrestation ou la répression policière, mais qu'il y avait quand même un éventail de formes de stigmatisation et que tout ça n'était pas documenté. Quand on essayait les gens... Souvent, les représentants des ministères qui étaient assis, tout le monde était assis à une même table, et les représentants des ministères nous disaient « Oui, mais quel est le problème? Vous avez des droits maintenant. Quel est le problème? » Et là, on leur disait « Oui, mais dans les écoles, les jeunes gays, les jeunes lesbiennes, les jeunes même hétéros, mais dont le genre n'est pas conforme aux normes, se font harceler, se font intimider. Avez-vous des preuves? » Bien là, on est obligé de citer des études américaines. Mmh. Alors, on s'est dit « Bien, ça prend des études faites ici au Québec pour documenter ces réalités-là. » Et c'est comme ça que l'idée de la chaire est venue. Puis moi, j'avais déjà commencé des recherches. Donc, je portais ce projet-là beaucoup, mais j'avais aussi l'appui des partenaires. Puis c'est, je pense, c'est ce large appui qui fait que ça a été inclus dans l'idée de faire de la recherche. Ça a été inclus dans la politique de lutte contre l'homophobie. Et ensuite, ça a été inclus dans les plans d'action. Donc, c'est comme ça qu'on a créé une chaire de recherche à l'UQAM.
Et personnellement, Lynn, qu'est-ce qui te motive à faire autant pour nos communautés dans cette recherche-là?
Mon Dieu, je pense que la recherche m'intéresse en soi. J'ai toujours une curiosité intellectuelle. Il y a aussi ma formation en sociologie qui m'amène à toujours poser des questions, à toujours vouloir savoir comment ça se passe ici, comment ça se passe ailleurs, comment ça se passait avant. Par exemple, ma thèse portait sur les lesbiennes dans les années 50 et 60 à Montréal. Donc, j'ai toujours eu beaucoup de curiosité Et je pense que ça c'est vraiment ma satisfaction personnelle. Ouais. C'est pour ça que je continue encore de lire, de m'intéresser, même si maintenant ça ne s'inscrit pas dans une carrière comme telle. Et sur le plan politique, ben, je pense que c'était une bonne alliance, la recherche et la politique, parce que c'est comme ça qu'on comprend mieux qu'est-ce qu'il faut changer. Oui. Et comment le changer. C'est-à-dire, si on arrive à pas seulement dire qu'il y a des problèmes, mais comment ça fonctionne, l'homophobie, la lesbophobie, comment ça s'applique différemment aussi à des groupes différents, les groupes de personnes racisées, les personnes queer, c'est pas les mêmes mécanismes souvent. Donc, comment, si on arrive à comprendre ça, on va pouvoir adopter des politiques qui vont être plus efficaces, plus collées sur les problématiques de terrain.
Je sais que tu es à la retraite, mais quand tu vois, depuis quelques années, cette remontée de la... Je vais dire de la haine vis-à-vis de nos communautés, les queerphobies, puis on voit dans certains pays même que ça va jusqu'à la peine de mort, il y a même des attaques un peu partout. Comment tu réagis à ça?
Ben, en fait, inquiète. J'ai beaucoup d'inquiétudes. Pour le Canada, notamment... Je crains que les financements actuels ne disparaissent avec certains changements politiques.
Avec l'arrivée de Pierre Poilievre aussi.
Pour le dire clairement, oui. Actuellement, au moins, la recherche, les interventions, les groupes reçoivent un financement qui est quand même important en raison du plan d'action gouvernementale du gouvernement fédéral sur 5 ans. Donc, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Il y a aussi une certaine démobilisation... Et je dirais une certaine division aussi parmi nos rangs, c'est-à-dire que on se rend compte qu'on est beaucoup diversifié, mais il n'y a pas toujours une unité de fait entre nous. Donc ça, c'est un autre sujet d'inquiétude. En même temps, je me dis, bon, il faut continuer de dire ce qu'on a à dire. Il faut continuer de documenter, de lutter, de collaborer. Et je pense qu'on a toujours une façon de faire un petit pas vers l'autre aussi, de faire, je crois beaucoup... Maintenant, jeune, j'avais un discours plus radical, révolutionnaire, comme plusieurs d'entre nous. Maintenant, je crois davantage qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, un geste de solidarité avec des organisations comme Égide, qui est investie à l'international. On peut faire un don. On peut faire un don à d'autres associations internationales. Comme Amnesty International qui défend aussi les personnes LGBTQ+. Donc, on peut diriger notre don vers ça. Donc, je pense qu'il y a toujours quelque chose, un geste qu'on peut faire de solidarité entre nous, avec d'autres personnes de la communauté.
C'est la journée de visibilité lesbienne qui s'en vient. Puis, je peux pas m'empêcher de dire, mais comment ça se fait que les femmes lesbiennes ont autant été invisibilisées dans nos communautés?
Ben, je pense parce que ce sont des femmes, donc au départ, elles sont... c'est une question complexe, là.
Oui, je sais.
Je pense qu'au départ, ce sont des femmes, donc elles ont moins de pouvoir dans la société, elles ont moins de ressources économiques, et elles sont aussi plus centrées sur leur vie privée, parce que plusieurs générations de femmes ont été socialisées comme ça. Donc, les femmes gagnent du terrain en politique, mais avant que les femmes lesbiennes ou que des femmes lesbiennes racisées gagnent ce terrain-là, ça prend quand même du temps.
C'est long de se défaire des bonnes vieilles habitudes du patriarcat, hein?
Oui, c'est long. On peut bien le faire exploser et c'est vrai que ça procure un plaisir inoubliable.
Tu as vu la pièce de théâtre exploser?
Oui,
ah oui, j'ai adoré.
Et effectivement, ça fait du bien. Il faut se faire du bien, je pense, au moral. Il faut s'encourager. Alors, dans ce sens-là, c'est absolument essentiel. Mais en pratique, c'est pour les luttes politiques progressent souvent plus lentement. Alors, il faut garder notre horizon à long terme.
Est-ce que, tu as parlé de solidarité, est-ce que cette solidarité-là, elle existe ou elle existe moins maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre nos communautés et notamment vis-à-vis les femmes?
Je pense que les femmes ont toujours été minoritaires dans la communauté, c'est-à-dire même à l'époque, par exemple, où il y avait les luttes pour les droits, pour la reconnaissance du mariage et tout ça, si on regarde... la place des femmes dans les groupes militants ou leur place dans les rôles de direction, elles étaient minoritaires à ce moment-là. Puis il y a beaucoup de lesbiennes qui ont plutôt investi le mouvement féministe avec l'idée qu'elles allaient gagner comme femmes des libertés, des ressources, le droit à l'emploi, le droit à un meilleur salaire. Donc tout ça leur permet d'avoir une vie lesbienne, d'assumer sa vie comme lesbienne, parce que si on n'est pas l'autonomie économique, on peut pas avoir une vie comme lesbienne. Si on n'a pas les moyens d'élever les enfants, on fera pas des enfants pour... Donc, il y avait des gains à faire du côté féministe. Alors, les femmes ont toujours été un peu divisées entre le militantisme avec les gays, le militantisme au sein du féminisme et le militantisme autonome. Et je pense que dans le mouvement gay, donc, elles étaient moins nombreuses à s'y investir et forcément, et là, moi-même, je me rends compte que j'ai milité un peu dans ces trois endroits-là aussi à travers ma vie. Donc, je suis pas capable de dire c'est mieux de militer d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il y a des combats à mener dans les trois lieux. Je pense que la représentation des femmes lesbiennes, depuis quelques années, ça s'améliore, mais c'est encore souvent des femmes jeunes, blanches, belles.
Surtout pas les butch. Excuse-moi. Je veux que tout le monde m'excuse d'utiliser le mot, mais c'est parce que ça signifie quelque chose. On dirait que les femmes un peu plus garçonnes, on les met de côté, on a comme peur de les montrer.
Oui, les butch ont toujours été plus aisément exclus. Et je dirais qu'il y a eu comme vraiment un gros creux de vague. Là, que je me suis, pendant des années, j'enseignais, je demandais aux jeunes de me dire, aux étudiants, de me donner des gays connus ou des personnalités politiques ou des personnages, des personnalités dans les médias ou même des personnages de films. Puis la liste des gays était toujours très longue. La liste des lesbiennes était toujours très courte ou américaine. Et non pas québécoise ou canadienne. Et là, maintenant, la liste s'est un peu allongée, mais quand même, le rattrapage n'est pas encore complet.
C'est clair, je mettrai Lynn Chamberlain sur ma liste.
Ben, je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut être visible, comme ça a été dit par Mélodie et Geneviève. Parce que plus on est aussi, la visibilité produit des effets dans la mesure où on est plusieurs à être visible et à montrer que justement, on n'est pas tout, on est d'âge différent, il y a une grande diversité parmi nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer.
Dernière question. Qu'est-ce que tu souhaiterais voir là, dans les... C'est quoi ton rêve pour nos communautés? Ah, je pose une question compliquée. Hein?
Oui, ça, c'est une question... c'est une question compliquée. Moi, j'aimerais que c'est vraiment l'international... pour lequel j'ai des inquiétudes, parce que malheureusement, c'est des rapports politiques, en fait, souvent qui n'ont rien à voir avec les gays lesbiennes. La question lesbienne est devenue instrumentalisée par les forces de droite, par les forces conservatrices, par les conservateurs en Russie qui veulent se démarquer de l'Europe démocratique. Donc, il y a toutes sortes d'utilisation de cette question-là et actuellement, c'est en train de nous faire des reculs. Je trouve que c'est vraiment malheureux. Donc, ce serait qu'il y ait des gains importants qui soient faits à l'international.
On va l'espérer. Merci beaucoup, Lynn Chamberlain.
De rien, plaisir.